France Inter. Quel esprit faut-il pour affronter les flots et les courants d'un slalom en canoë? Quelle qualité, quelle puissance et quel courage faut-il pour gagner et arrêter? Le champion olympique Denis Gargaud est notre invité. Avec lui, on parlera du plan d'eau qui va accueillir les épreuves de Paris 2024. On parlera épreuves toujours, mais les siennes, celles qu'il traverse depuis Tokyo et les espoirs qu'il nourrit pour demain. Épreuve encore, celle de Valentin Winato, notre judoka reporter qui est dans le dur, comme on dit. Dans le dur, mais dans l'esprit, avec Claude Askolovitch. Nous sommes le dimanche 24 mars et c'est le dernier week-end à l'heure d'hiver, alors on inspire.
L'esprit sport. Nathalie Yanetta sur France Inter.
9 août 2016, White Water Stadium, Rio de Janeiro.
Allez Denis, c'est parti. Denis Gargaud, le Marseillais, qui est là dans cette finale de Deodoro pour aller tenter de chercher la première place. Et Denis Gargaud qui est toujours en tête dans cette finale, peut-être pour être premier. Oui,
oh là 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 là.
Bonjour Denis Gargaud.
Bonjour.
Alors avant ce titre olympique, il y a eu un titre de champion du monde en monoplace, c'était en 2011. Après ce titre, il y a eu un titre de champion d'Europe. Mais le Graal, ça reste l'or olympique.
Absolument. C'est ce que tout le monde recherche quand on s'engage dans une démarche de sportif de haut niveau dans un sport olympique, c'est sûr. On nous le rappelle, on nous l'impose, on nous le rabâche et au final quand on...
C'est-à-dire que tu ne seras rien tant que tu n'auras pas une médaille olympique.
Alors c'est vrai dans beaucoup de sports olympiques, surtout dans le nôtre, le canoë, surtout quand on a eu un triple champion olympique avant nous.
Tony Estanguet. Voilà,
donc pour rivaliser, seulement avoir le droit de rivaliser, il faut être champion olympique.
Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Est-ce que ça a tout changé?
Ça a beaucoup changé de choses, c'est sûr. J'ai l'habitude de dire que ça a changé ma vie, pas de manière folle, mais je crois que c'est très rare les journées qui se passent sans qu'on m'en parle.
C'est comme ministre en fait, vous l'êtes à vie, champion olympique.
Ah de toute façon, on l'est à vie, c'est sûr, oui.
Sauf que ministre, on est nommé. Hein.
Claude Askolovitch, bien sûr, alors que là, il va la chercher. Il va la chercher. Comment un gamin marseillais tombe amoureux de ce sport-là, Denis?
Un petit peu comme une histoire d'amour. Il faut, je pense, plusieurs ingrédients. Moi, je suis un garçon qui a toujours aimé jouer, toujours aimé l'eau.
Ouais.
Je pense que quand je suis monté dans un canoë la première fois, c'était au bon moment, au bon endroit. Il faisait beau, il faisait chaud.
Vous étiez gosse?
J'étais enfant, j'avais 12 ans.
Ouais.
Et c'était dans le canoë de mon oncle sur la rivière la Loire à Orléans, où j'étais en vacances chez mes cousins et qui m'ont. Bon, je pense qu'à mon avis, ils ont essayé de me noyer parce que j'étais fatigant comme garçon.
Quel plaisir vous avez éprouvé, l'enfant que vous étiez à ce moment-là a éprouvé. Vous en avez des souvenirs?
J'en ai des souvenirs justement, et en fait, c'est le fait d'essayer de contrôler, de maîtriser l'eau, qui est un élément qui est très fort, qui est l'élément le plus puissant, moi je pense ça, et dans des conditions qui étaient de nature agréable en fait. C'était l'été, il faisait chaud, l'eau était bonne, c'est pour ça que je suis tombé amoureux de ce sport.
Le sport, ça a toujours été une évidence dans votre vie, aussi loin que vous vous en souveniez ou pas?
Je pense que le sport, c'est une manière pour moi d'avancer dans la vie. J'ai l'habitude de dire que, en fait, moi, quand je vais pas bien, il faut que je bouge, il faut que je sois dans le mouvement. Et le sport fait partie de cette espèce de philosophie de vie qui me permet d'être tout le temps en mouvement, en fait.
Mais quand vous faites pas de canoë, vous faites quoi, alors, du coup, comme sport?
Je fais plein d'autres sports. Je vais au golf, je fais... j'ai essayé de me mettre à d'autres sports, mais la loi de la gravité m'a rappelé que j'étais plutôt fait pour être dans un canoë.
On parlera du canoë, on parlera du kayak, on parlera des qualités qu'il faut avoir. Mais d'abord, je voudrais vous faire écouter quelque chose. Normalement, la simple évocation de la date va vous mettre sur la voie. Nous sommes le 26 mai 1993.
Amélie Pelé pour le tirer. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau, et but!
But de Boli! But de Basile Boli sur ce corner!
Eh bien, c'est le moment idéal!
Et c'est fini! L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions!
Face à Milan, 1-0 à Munich, quel souvenir vous gardez de ce moment? Parce que l'OM, c'est aussi une autre histoire d'amour pour vous.
Le foot est une histoire d'amour d'une manière générale, en fait, parce que quand on grandit à Marseille, on ne peut pas faire autrement que toucher la balle. C'est obligé. Alors moi, j'ai grandi dans un petit quartier qui est juste au-dessus de Saint-Henri, qui s'appelle Mauropiane. Saint-Henri, c'est le village voisin de... et c'est le premier club de Zinedine Zidane.
C'est à 2 kilomètres, en fait, de là où Zidane a grandi, que vous avez grandi.
C'est ça. Et donc, on est obligé de... À l'époque, 93, moi, j'avais 6 ans. Je me rappelle de cette victoire. Et en fait, je l'ai vécu à travers les grands du quartier qui étaient comme des dingues et qui m'ont fait comprendre un petit peu le sens que ça avait de gagner une compétition. Et en fait, depuis cet âge-là, tous les soirs après ce titre... On se retrouvait tous les soirs sur la place du quartier pour jouer au foot et pour s'entraîner et pour partager. Et c'était devenu un rituel et ça a continué jusqu'à presque 12-13 ans.
Mmh. Et l'une de vos idoles, c'est Zidane. Vous dites,
vraiment,
quand on vous demande quelle est votre idole, spontanément, vous dites Zidane.
Oui, je dis Zidane et je dis une autre personne, pour respecter la parité, un homme, une femme. Il y a une grande dame aussi de marseillaise qui s'appelle Myriam Jérusalemi et qui est aussi mon idole dans mon sport.
Avec qui vous avez aussi fait des compétitions de canoë, souvent.
Et Zidane parce que Zidane ou Zidane parce que Marseillais ?
Non, parce qu'en fait, quand j'étais petit, je disais à mon père, je veux être sportif professionnel. D'ailleurs, je ne disais pas, je veux être footballeur professionnel. Et il me disait, mais c'est possible, regarde, Zidane, il a grandi
à la Castellane,
et c'est possible de le faire. Donc, ce n'est pas infaisable. Et surtout, ensuite, après, ça a été un repère pour moi, de l'observer, de le regarder. Et moi, ce qui me frappe, ce n'est pas forcément le fait qu'il ait gagné toutes les compétitions, c'est la manière dont il les a gagnées. C'est son geste, c'est d'une certaine manière la souplesse et le dynamisme qu'il peut avoir dans
son
geste.
C'est son élégance.
Une sorte d'élégance. Moi, il me fait penser un peu à Federer, au tennis.
C'est-à-dire ces icônes intouchables qui touchent tout le monde pourtant.
Oui, c'est en fait, il touche par la grâce du geste, il touche pas que par le fait de gagner. Voilà.
Si il y a un corps incroyable, c'est un athlète, mais ce qu'il arrive à faire avec sa cheville, vous peut-être, moi, la plupart des gens, non. Il avait une souplesse de cheville et une capacité à repartir là-dessus qui était extraordinaire.
Qui est extraordinaire et qui n'appartient qu'à lui, c'est-à-dire que personne d'autre.
Il a encore
ça,
à 50, bientôt 2.
Donc là, on est amoureux de la cheville de Zinedine Zidane.
Moi, ce qui m'inspire le plus, c'est le fait que je crois que j'ai compris ce qu'il fallait pour arriver à une telle maîtrise. Et je l'ai appliqué, c'est-à-dire de la répétition, de la réflexion, de la mise en pratique. Et c'est un geste d'artisan presque, qui est travaillé toute une vie pour arriver à le maîtriser, quoi.
Ça veut dire que, quels que soient les sports, de grands sportifs inspirent d'autres grands sportifs.
Même si on n'est pas
dans la même discipline.
C'est possible, oui.
Alors on va parler de cette technique, de cette concentration, de ces gestes d'artisan, comme vous dites, dans le canoë. On va même parler de science et de technologie au service du sport. Ce sera juste après Black Pumas et Ice Cream. Et c'était Black Pumas sur France Inter. On est toujours avec Denis Gargaud, champion olympique de canoë. Denis, aujourd'hui, la science et la technologie sont partout dans le sport. Je vais vous emmener dans un exemple appliqué à la Fédération française de cyclisme. Elle s'est associée, comme une dizaine d'ailleurs de sports olympiques, à un programme intitulé Sport de très haute performance, des mathématiques à la physique et à la mécanique, d'Orsay à Lyon en passant par Poitiers et Nantes. Les plus grandes écoles de recherche travaillent depuis 4 ans maintenant aux côtés des cyclistes tricolores pour maximiser, disent-ils, les chances de médailles cet été. Et c'est Fanny Lechevestrier qui est allée à la rencontre.
L'or se niche dans les détails et des endroits parfois insolites, jusque dans une ancienne soufflerie automobile à deux tours de route du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est là que les cyclistes sur piste français travaillent l'aérodynamisme primordial dans la performance. Et pour multiplier les tests à l'infini, le programme de recherche a permis de financer deux mannequins très rares, dont un clone du champion du monde, Benjamin Thomas, né de 1700 heures d'impression 3D. Une véritable avancée, analyse l'ancien coureur Jérémy Roy, qui encadre les recherches sur la résistance à l'air.
Ça permet d'avoir un test avec des mesures reproductibles. Si on veut optimiser un petit bout de position, une partie du texte, une position de couture, par exemple, ça paraît insignifiant, mais en fait, ça a un impact énorme sur la résistance à l'air et sur l'aérodynamisme.
Un exemple concret, après 3 ans et 1000 heures d'expérimentation sur les textiles que porteront les cyclistes durant les Jeux, les ingénieurs estiment que la tenue choisie peut faire gagner jusqu'à une seconde sur une course de 45 secondes. Un peu plus loin, Fabrice Ville, enseignant-chercheur à l'INSA Lyon en tribologie, la science des frottements, planche lui sur la chaîne des vélos.
On a des frottements dans les maillons, on a les maillons qui frottent sur le plateau, etc. Et tout ça, nous, on a essayé de comprendre comment ça se passait et voir s'il y avait des gains de performance possibles. Et donc, alors, on est en train de faire du transfert vers la fédération, vers le terrain, pour mettre en place une lubrification particulière des chaînes de vélos. Et là, sur cet aspect-là, on peut avoir des gains substantiels. On a fait les tests sur nos bancs d'essai. À partir de résultats de calcul, à la fin, ça fait la différence entre un premier et un deuxième sur le sprint.
Pour des progrès finalement assez récents, la Fédération française de cyclisme s'est en fait lancée dans le programme gouvernemental Science 2024 il y a un peu plus de 4 ans, explique Emmanuel Brunet, le responsable de la performance.
Nous, on était habitués à créer des petits projets très humains avec une ou deux personnes. On n'était pas habitués à travailler sur des grands projets. Les premiers qui ont montré la voie, c'est les Australiens avec les Jeux de Sydney. Les Anglais ont recopié ce modèle-là. Le sport pro US aujourd'hui est vraiment habité de cette dimension. Là. Si on veut continuer à être dans les nations fortes, on ne peut plus prendre de retard en fait, sur les aspects scientifiques.
Avec une recherche bien sûr infinie ces derniers temps, des petits scotchs de couleur ont ainsi fait leur apparition sur la piste olympique de Saint-Quentin. Scientifiques et cyclistes concentrent leurs efforts sur la trajectoire idéale.
C'est un système basé sur le tracking optique et qui fait appel à de l'intelligence artificielle. Donc d'abord, faire un scan 3D de la piste. On a installé au total 14 caméras.
Un programme développé par Christophe Planet, directeur de recherche au CNRS, où les calculs savants et l'intelligence artificielle doivent aider par exemple à définir où doit se faire le relais idéal pour les poursuiteurs.
Donc là, vous avez 4 coureurs qui vont faire 4 km et qui vont régulièrement se relayer. Et donc la question, c'est où est-ce que je fais mon relais ? À quel endroit je pars ? À quelle hauteur je monte ? Et où est-ce que je redescends ? Il y en a plein de trajectoires possibles. Ce qu'on veut, c'est celle qui maximise la vitesse. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une par vélodrome. Et donc chaque fois que vous avez déterminé ces trajectoires-là, soit pour les sprinteurs, soit pour les endurants, il faut les leur montrer. C'est-à-dire entre le moment où vous la trouvez sur ordinateur et le moment où eux la font. Et donc les scotchs vont servir à ça.
Ces petits scotchs qui seront bien évidemment enlevés pour les compétitions. Mais d'ici là, les pistards tricolores auront encore quelques mois pour les mémoriser et utiliser un petit avantage maison qui sera peut-être décisif cet été.
L'Esprit Sport, Nathalie Anetta sur France Inter.
Et Denis Gargaud, Denis, ces techniques-là, dans votre sport à vous, le canoë, ça vous parle ?
Bien sûr que ça nous parle. On va dire que c'est des stratégies même un petit peu de fédérales ou d'équipe de France avec... Moi, je pense que c'est assez réservé aux entraîneurs, aux encadrants, aux gens qui font de la recherche. Peut-être même aussi aux constructeurs qui font avancer le matériel.
Vous, c'est le cas, là, on a entendu le cyclisme. Mais enfin, effectivement, votre canoë ou votre kayak, la manière dont il est construit, la légèreté, j'imagine, c'est comme la F1 d'une certaine manière. Il faut que tout soit au millimètre, au gramme.
C'est exactement comme la F1 avec beaucoup moins de moyens.
Ouais.
Mais dans l'idée, c'est ça, c'est d'optimiser au maximum tout ce qui peut nous permettre de nous coller au mieux à nous, c'est-à-dire que c'est une sorte d'ergonomie. On n'est pas tous fait pareil aussi, donc Ces recherches-là sont très importantes. Après, j'ai envie de remettre un petit peu la place du sportif là-dedans. Nous, on est des performeurs et on doit être capable d'utiliser, de s'adapter à un matériel très spécifique et de répondre à une problématique le jour J lors de la course. Et ça, ça demande d'avoir une certaine légèreté, une certaine fraîcheur. On ne peut pas réfléchir à tout, on ne peut pas être trop concerné par ce développement.
Vous êtes consulté, mais après, c'est chacun son boulot, en fait.
Exactement, oui.
Ouais. Alors justement, pour nos auditeurs, on va en profiter pour faire un petit point sur ce canoë-kayak. C'est vrai que c'est un sport dont, on va dire que tous les 4 ans, en gros, on s'y intéresse. Il se trouve que nous, la France, nous avons la chance d'avoir de très grands champions comme vous, comme Tony Estanguet, qui ont rapporté beaucoup, beaucoup de médailles. C'est quoi la différence déjà entre le canoë et kayak, en dehors de la position assise? On la rappelle, hein, canoë, vous êtes à genoux, alors que kayak, vous êtes avec les jambes allongées. Mais c'est quoi la différence entre les deux?
Alors, il y a aussi une autre différence, c'est la pagaie qu'on utilise. Donc, en kayak, on a une pagaie double, on pagaie à gauche et à droite. Et en canoë, on a une pagaie simple où on tient avec la main droite ou la main gauche et on pagaie avec une rame, une seule rame. Les grandes différences sont physiologiques. Comme on n'est pas assis de la même manière, on ne va pas tracter notre embarcation avec les mêmes muscles, ou en tout cas avec les mêmes chaînes musculaires.
C'est plus les bras, plus les abdos. En gros, ça va descendre comme ça.
Ouais, ou nous, en canoë, on utilise aussi plus le dos. C'est pour ça qu'on peut observer chez les canoïstes qu'ils ont un dos vraiment marqué en V. Les kayakistes sont souvent plus fins, et c'est un sport qui est un petit peu plus cardio. Le cœur va battre plus vite pendant une manche, et donc du coup, ils perdent un peu de muscle et ils fondent un peu plus. Voilà. On utilise la pagaie d'une manière un peu différente aussi. C'est-à-dire que on a une pagaie simple, on va mettre beaucoup plus d'appui, de puissance dans notre coup de pagaie, ce qui va nous faire avancer plus vite avec un seul coup de pagaie, plus loin. Là où un kayak ne va pas trop réfléchir à cette stratégie, lui il se dit j'en mets autant que je peux, parce qu'il a la capacité de doubler. Nous, on doit réfléchir au timing de notre appui pour passer les portes, on doit réfléchir à à comment est-ce qu'on va utiliser l'eau un peu plus, le kayak s'en sort en général avec le physique.
Et là, la technologie peut jouer un rôle?
Alors,
sur le coup de pagaie, sur le moment...
Le chrono aussi.
Là, je trouve que dans notre sport, la technologie est vraiment applicable sur le matériel. On fait un sport...
Pas sur la trajectoire, pas sur le rythme, les relances.
La trajectoire, on fait un sport qui est trop aléatoire. Sur un milieu, un terrain qui est trop aléatoire, qui est l'eau vive, on peut avoir la trajectoire parfaite. La technologie ne va pas nous aider à décider de la trajectoire parfaite. Par contre, la technologie peut nous aider à faire des améliorations sur notre embarcation, à savoir quelle embarcation est la mieux adaptée à nous. Et c'est là où nous, on a le droit de faire un petit peu ce qu'on veut, un petit peu comme une Formule 1. On a chaque athlète à sa monoplace, à son monoplace, et on va le construire de manière un peu spécifique, avec en fonction du volume, de la rigidité du carbone sur l'avant ou le pont ou la coque du bateau. Et on va faire des choses très, très, très pointues qui nous permettent d'utiliser au mieux l'embarcation pour aller le plus vite possible.
La semaine dernière, à votre place, Tony Estanguet était là pour une rencontre avec Thierry Henry, et il nous a parlé des minutes juste avant, lorsque vous êtes en chambre d'appel, en disant que c'était à ce moment-là que lui réussissait à savoir si sa course allait être la bonne ou pas. Ce moment-là, vous, de cette solitude absolue où tout est quasiment joué, et que tout reste à faire, pourtant. Quels souvenirs vous en avez et quelles sensations ça vous évoque?
Ça m'évoque beaucoup d'émotions, parce que c'est un peu pour ça que je fais du sport de haut niveau. Moi, j'aime raconter cette histoire. La première fois que j'ai ressenti une perte de contrôle totale au départ d'une compétition, c'était mes premiers championnats de France cadets, à Foix, dans l'Ariège, où j'ai vraiment perdu mes moyens. J'ai eu l'impression que j'avais les genoux qui tremblaient et je savais plus, j'avais du mal à respirer, vraiment cette espèce de pression qu'on peut ressentir quand
c'est
on
la
est...
peur.
La peur, oui, bien sûr.
C'est ça.
C'est ça, la peur de m'affronter à ce parcours et aux autres. Et j'ai absolument pas apprécié me retrouver dans cette situation. Et c'est pour ça que j'ai continué ce sport. C'est
parce pour effacer ça.
Et depuis, en fait, ça génère des questions en moi et en fait, je ressens énormément de choses. Juste avant le départ.
Ouais. Voilà. Ce sport, il vous a tout donné, y compris vos pires souffrances. On a écouté tout à l'heure votre médaille d'or, mais il y a eu aussi des désillusions. Je pense évidemment au rendez-vous de Tokyo, puis celui qui arrive, sur lequel vous vous étiez vraiment projeté, cette Olympiade à Paris, et que vous ne ferez pas dans une monoplace. Comment est-ce que vous avez fini par accepter tout ça?
Alors l'acceptation, elle a mis du temps à arriver, c'est sûr, parce que c'est très lourd émotionnellement de se sentir empêché, de sentir aussi qu'on a eu un rôle à jouer dans cette mauvaise aventure. Hein. Mmh. Mais à un moment donné, il faut avancer. Il y a qu'une.
Vous en voulez encore à votre fédé de pas vous avoir mis sur la liste, comme on dit.
Non, je leur en veux pas parce que je suis sûr que qu'ils ont de très bonnes raisons. Et puis de toute façon, on ne pourra que juger de leur stratégie après avoir observé les résultats. Et donc ça, on ne peut pas prédire l'avenir. Et moi, je ne suis pas du tout dans la rancœur par rapport à ça.
Et il n'y aura pas d'aigreur, même si les résultats ne sont pas là?
Non.
Il n'y aura pas de ce que les Allemands appellent la schadenfreude et la joie mauvaise. Ça, ce n'est pas possible.
Non, très, très sincèrement, non, parce que je ne peux pas tout contrôler, je ne peux pas tout maîtriser. Et là, je ne pouvais pas battre le système. Et c'est une leçon que
j'ai. Mais vous êtes vraiment battu?
Bien sûr, je me suis battu
jusqu'au bout. Justice, ouais.
Oui, parce qu'il y a eu, voilà, ça. Je pense que quand ça se passe mal dans une relation professionnelle, il y a forcément des torts des deux côtés. J'assume les miens et je pense que j'avais besoin de me défendre déjà par rapport à mon statut d'athlète pour représenter les miens, parce que je pense que la manière dont on a géré mon affaire, ça a été mal géré. Et qu'il fallait que je fasse savoir qu'il ne faut pas traiter les gens comme ça. Et j'avais besoin personnellement aussi de me battre, parce que je ne me laisse pas faire. Ce n'est pas comme ça que je me suis construit, et c'était hors de question que j'accepte sans me défendre.
Alors on dira quand même que les Jeux, vous allez les faire, puisque nous allons avoir la chance de vous avoir comme consultant canoë sur les antennes de Radio France pendant ces Jeux Olympiques. C'est un grand honneur et une grande chance pour nous, parce que vous allez nous faire partager en vrai, au bord de ce bassin de Vaires-sur-Marne, dont nous allons parler dans quelques minutes, votre expérience. Et notamment le parcours des tricolores, dont vous nous direz s'ils sont bien ou mal engagés. Mais d'abord, c'est l'heure de Claude Askolovic qui tousse un peu. Vous êtes malade, Claude. C'est dimanche, c'est comme ça. Semaine difficile.
Trop de piscine.
Mais vous nous parlez quand même. Mais vous nous parlez quand même d'honneur.
Absolument. L'honneur de la boxe que l'on a flétrie dans une de ces vulgarités où tombe la politique. La boxe dont le bruit s'est emparé pour deux clichés du président Macron, grimace, biceps saillant, travaillant au poing un sac qui ne lui avait rien fait, photo mise en ligne par Soazic de la Moissonnière qui sculpte l'image du chef de l'État, photos qui ont inspiré commentaires et colères sur le message politique qu'enverrait le président au monde ou à Poutine et sur la virilité vulgaire que la boxe incarnerait. Eh bien, sans irrespect pour quiconque, mon Dieu, que de conneries, car la seule chose qui compte, la voici, c'était de mauvaises photos, de pauvres postures, du point de vue de l'art, je veux dire, du point de vue du noble art, et ça, c'est vraiment embêtant.
Et ce sont deux femmes qui l'ont dit.
Absolument, parce que la boxe n'est pas un hochet viriliste, mais c'est un art de l'esquive aussi bien que du coup, où la bravoure soutient la subtilité. Donc oui, deux femmes qui entraînent et qui se battent, qui ont regardé les photos pour le site Huffington Post, dans le seul texte que vous devez lire sur cette histoire. Elles se nomment Isabelle Guignon, de la boxe française, et Jihen Abdelila, du grappling et du MMA. Je synthétise leurs propos. Le président n'avait pas de bon gant, ses mains allaient donc souffrir. Sa posture était fausse et posée. Ses poings ne s'enfonçaient pas dans le sac. Il n'avait donc pas de force. On ne sentait pas la torsion du buste ou le mouvement en avant. C'était un geste de débutant. Il a le droit de faire de la boxe, cet homme. Il ferait mieux de changer de coach et d'aller à la salle. En gros, vous voyez l'idée. Eh bien, ce commentaire technique nous ramène à l'essentiel. La boxe est une valeur en soi, pas une gloriole, pas un message. La boxe, c'est un rite que l'on honore. La boxe, ça ne se photographie pas à l'encan. Quelles que soient les raisons, elles sont forcément mauvaises. Et l'irrespect est donc ici dans l'exhibition d'un piètre entraînement. L'image donnée d'une apparence de force, d'un muscle en réalité sans impact. L'impression que donne le président d'être fier de son énergie dépensée en vain, quand en vérité, il devrait le savoir, il est homme de culture, il devrait apprendre modestement et ne se montrer à nous que quand il sort à boxer ou ne jamais se montrer, c'est tout aussi bien pour lui aussi, qui doit savoir aimer un peu beaucoup le sport, la boxe, aimer sans se servir, aimer en servant.
Et du coup, vous vous êtes souvenu d'un amant de la boxe.
Un poète du siècle passé, Jean Cocteau, qui dans les nuits parisiennes des années 1930 était tombé en admiration, en amour pour un diamant noir tombé dans une poubelle, ainsi écrivait-il. Panama Al Brown, un latino géant filiforme au pays des mouches et des coqs qui dominait de son allonge et de son 1m75 les hommes de sa catégorie. Que le mauvais sort, les trahisons, une vie dissolue, la drogue, les garçons avaient éloigné de la gloire et que Cocteau, protecteur attentif, ramena au combat. Ils avaient, le poète et le boxeur, le même poignet frêle, leur grâce se parlait, ainsi parlait Cocteau. Est-il beau ? La question ne se pose pas. Il n'est ni beau ni laid, il est extraordinaire. Mais chez cet animal exceptionnel, rien ne nous écrase. Rien ne rappelle le détestable orgueil des fils de roi. Frappe-t-il le sac de sable? Le sac recule et tourne devant son poignet maigre. Saute-t-il à la corde? La corde disparaît. Elle ne subsiste que par sifflement. Sous les pieds de Mercure, le sol s'enfonce et remonte. Le plafond plonge et déplonge, léger sous sa tête. Les murs s'écartent autour de ses épaules. Et lisant ces mots, dédiés à un boxeur, je me suis lavé des bêtises du temps et j'ai été triste pour ceux qui en sont privés. Quelques années plus tôt, novembre 1918, était mort au Mexique un colosse de 2 mètres, poète et boxeur, qui avait fui tout autour du monde cette guerre mondiale qui se terminait et qu'il ne voulait pas faire. Il gagnait sa vie en se battant. Il s'appelait Arthur Cravant. Un jour, il avait affronté à Barcelone le légendaire Jack Johnson, premier noir champion du monde des lourds. Il fut le précurseur du dadaïsme et des surréalistes. Il bouleversait les mondes et il était aussi vrai, aussi fou dans le combat et dans les mots. Je voudrais être à Vienne et à Calcutta, prendre tous les trains et tous les navires, forniquer toutes les femmes et baffrer tous les plats. Monde chimiste, putain, ivrogne, musicien, ouvrier, peintre, acrobate, acteur, vieillard, enfant, escroc, voyou, engénosseur, millionnaire, bourgeois, cactus, girafe ou corbeau, lâche, héros, nègre, singe, donjon, souteneur, lord, paysan, chasseur, industriel, faune et flore, je suis toutes les choses, tous les hommes et tous les animaux. Et lisant ces mots d'un boxeur, je me suis lavé de nos banalités.
France Inter, l'esprit sport, Nathalie Yanetta.
Et Denis Gargaud, champion olympique de canoë. Alors ce plan de Vers-sur-Marne sur lequel tous les athlètes engagés et qualifiés pour les Jeux vont s'élancer, vous le connaissez bien, vous y étiez d'ailleurs cette semaine. Comment est-ce que vous le qualifieriez ?
Très spécifique, il y a beaucoup de hauteur d'eau, ce qui fait que des mouvements sont un peu aléatoires et des fois un peu freinants. C'est-à-dire qu'ils n'aident pas l'embarcation à gagner et à descendre la rivière. Des fois, il y a beaucoup de mouvements d'eau qui empêchent même le bateau d'avancer. Donc, il est très particulier. Il est puissant et à la fois doux. Donc, c'est un stade d'eau vive qui mérite entraînement.
Mais alors, du coup, là est ma question. On parle toujours de l'avantage d'être à la maison. Là, si on vous suit comme ce parcours est très spécifique et mérite de l'entraînement, ça veut dire que l'avantage de la maison, il peut jouer pour les kayakistes et ceux engagés en canoë pour les tricolores ou pas ?
Il peut, sur le principe. Malheureusement, ça ne va pas être le cas, on ne va pas se mentir.
Pourquoi ?
Il faut être honnête, parce que le stade d'eau vive a été construit beaucoup en avance et que pour faire vivre un...
Ça fait déjà 4 ans qu'il a été inauguré ce stade.
C'est ça, ouais, en 2019. Et dès l'année 2019, les étrangers avaient le droit de venir s'entraîner. Alors depuis, il y a eu des travaux, depuis il a été changé, mais le stade d'eau vive est ouvert.
Donc tout le monde le connaît en fait.
Donc tout le monde le connaît. Et je pense très franchement que oui, il y aura un avantage pour les Français qui l'ont vraiment bachoté, qui ont vraiment répété. Mais on ne peut pas dire que cet avantage-là va servir à... ou plutôt va les aider à remporter des médailles. Il va falloir aller chercher plus que ce côté « je suis à la maison et donc ça va bien se passer ».
Claude ?
Est-ce que vous vous sentez en droit de transmettre ce que vous avez compris de ce plan d'eau à ceux qui vont concourir à votre place, ou faut les laisser faire leur expérience ? Est-ce que vous pouvez être une figure tutélaire un peu envahissante mais utile, ou il faut les laisser tranquilles ?
Très franchement, et je vais répondre de la manière la plus sincère possible, ça doit venir de celui qui va faire la compétition. C'est-à-dire que en aucun cas, moi, je ne peux m'imposer comme figure tutélaire. Je peux discuter à la demande des athlètes. Je le fais déjà avec les jeunes, pas forcément avec ceux qui participent aux Jeux, qui ont déjà une belle carrière et qui savent ce qu'ils font, hein, parce que sinon, ils ne seraient pas sélectionnés olympiques. Mais c'est une démarche qui doit venir de là.
Alors, je vais retourner à la question de Claude. Est-ce que vous avez eu cette démarche avec Tony Estanguet ?
Absolument. Absolument, je l'ai eu parce que c'est, je pense, une des clés pour être un grand champion, c'est d'avoir ce courage de poser des questions aux gens qu'on admire, aux gens qui nous ont précédés.
Il dit souvent de vous, je me reconnais en Denis, y compris dans le style. Ça, par exemple, alors voilà, ça inhibe ou au contraire, ça propulse quand on doit s'élancer dans des compètes ?
Non, moi j'ai toujours accepté, en fait je pense que j'ai compris que très vite que Tony, je battrai jamais son palmarès, voilà. Donc j'ai toujours accepté que ça, j'irai
pas... Bon bah 3 médailles d'or, on laisse tomber, voilà, mais sinon...
Et donc du coup, je me suis dit je vais faire mon petit bout de chemin à moi et je vais essayer de remporter. J'ai jamais eu peur d'aller confronter Tony en lui disant « Est-ce que tu peux m'aider sur cette problématique-là »
Les questions que vous pouviez poser à Tony Estanguet, ça parlait de quoi ? De philosophie, de psychologie ou de technique ?
Alors oui, plus de philosophie et de manière d'organiser une performance, parce qu'en fait une performance elle s'organise, c'est beaucoup plus complexe qu'on veut bien le croire. Ce n'est pas celui qui pague le plus fort ou celui qui boxe le plus, qui tape le plus fort, qui gagne la compétition, c'est celui qui réfléchit le plus. Et donc Tony est un grand stratège et quelqu'un qui a cette force de mettre en place et d'organiser les choses, on le voit dans son nouveau métier. Mmh. Et moi, j'ai toujours eu une grande admiration et une certaine inspiration à faire un petit peu comme il l'avait fait, à réfléchir, à organiser, à mettre sur papier.
À tout prévoir.
Voilà. Et d'une certaine manière, c'est là, je pense, où il m'a le plus aidé.
Denis, on a parlé de Paris 2024, de la déception de ne pas y être qui, ça y est, est maintenant digérée. Je voudrais vous présenter Valentin Winato. Valentin, c'est un reporter ici, à Radio France, qui s'est engagé pour son pays d'origine, le Bénin. Il est judoka et il souhaite se qualifier pour Paris 2024. Valentin, il est dans le dur en ce moment, il galère, il a eu une blessure et cette semaine, il nous emmène dans ce qui est pour lui une course contre la montre. La prépa de Valentin, épisode 25.
Ok, ça. Alors évidemment, je suis en retard pour le taf. Ça va pas s'arranger parce que juste avant, je dois aller chez le kiné. Et je suis en retard pour le kiné aussi.
Mais c'est agréable.
Ouais. Parce que je sens que tous les muscles autour, là... Ah putain, ils sont raides. Enfin, ils ont travaillé.
Ouais, il y a la congestion, ouais, ça. Donc t'as l'impression d'étirer une courbature.
Ouais.
C'est agréable, ça.
Ah, oh, putain. C'est vraiment l'extension...
C'est quand même beaucoup mieux, hein. Une semaine, franchement, c'est top, hein.
Ah ouais ?
Ouais.
Ouais, c'est le coup qui retire direct, là, sur le premier action.
Voilà, premier combat. Ça fait mal. On va pas échapper à la piqûre demain, je pense. Ah, putain. Infiltration demain. Après, j'ai 5 jours chez mes grands-parents, donc je vais rien faire du tout. Et je vais reprendre mercredi prochain. Et après, il nous restera 4 semaines et demie, je crois. Et après, tu vois, les championnats du monde, évidemment que j'ai envie de les faire, tu vois. Mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'aller se taper un voyage à Abu Dhabi avec un coude comme ça?
Si ton coude, il...
En fait, il tient mes trucs. Une grosse
claque. Faut que tu vois, si le doc te dit, écoute, c'est sûr, ça va te faire mal, tu les fais pas.
Ouais.
Si le doc te dit, ouais, je pense que. Mais bon, frache pas du monde, franchement, c'était pas à 100%.
Ouais, c'est ça.
C'est quand même difficile. Ouais. Au bout de ligne, de toute façon, la priorité, ça reste les jeux quoi qu'il arrive. Ouais.
Là, on est le 21 mars, et c'est aujourd'hui que je craque, franchement. Bon, en gros, aujourd'hui, j'avais un rendez-vous médical à 14h, donc c'est pendant une journée de travail, parce qu'en fait, j'avais pas tellement d'autres choix. Jeff qui m'envoie, ouais, c'est pas sérieux. Enfin, je comprends son point de vue et je pense juste que c'était le message de trop.
À un moment donné, le taf, quand de temps en temps vous arrivez un peu plus tard ou vous repartez un peu plus tôt, vous avez un rendez-vous médical ou pour l'entraînement, bah voilà, au taf, au bout d'un moment, ça, ils se disent putain.
Et je crois que si je crois que c'est juste parce que psychologiquement j'ai accumulé trop de trucs. Enfin, de toute façon, je vous l'avais déjà dit, mais ça fait des mois que les médecins me disent que je suis en surmenage et qu'ils veulent m'arrêter, que je leur dis non, c'est bon, vous inquiétez pas, bah voilà.
Tous les journalistes qui me demandent ouais, comment t'arrives à conjuguer travail et sport de niveau, mais en fait j'arrive pas, la vérité c'est que j'arrive pas.
On se ressaisit un peu et on y va.
Est-ce que vous voyez quoi là vous?
Ouais, il y a une fissure qui a arraché la moitié de la face profonde quoi, des épicondyliens.
D'accord.
Donc, c'est bien fragilisé quand même.
Ah ouais, ouais.
Ensuite, même si ça pète à courte échéance avant une compète.
Je vais le sentir si ça pète?
Ouais.
Ouais, non. Ça fait mal ?
Ouais, ça. Ah oui, ça fait mal.
Allez, c'est terminé.
Excellent.
Rassurez-vous, ça va mieux quand même. Quelques jours après, j'ai discuté avec le chef en question et tout s'est arrangé. On va encore adapter l'emploi du temps et pas perdre de vue l'objectif. J'ai la chance d'être très très bien entouré par mes potes et dans mon travail, je vous l'ai déjà dit. Quelques jours de repos et c'est reparti. Bisous tout le monde.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Denis ?
Un sentiment de déjà-vu.
Ouais, pourquoi ?
Bah parce que quand le corps lâche, en fait, c'est ça qui est le plus dur pour nous. C'est que je pense qu'on est très solide mentalement. On est capable d'affronter beaucoup de choses. Mais il y a des fois où le corps, il lâche. Et c'est pas pour rien d'ailleurs, s'il lâche et que c'est qu'il y a...
Il dit quelque chose.
Il dit quelque chose.
Valentin le dit, hein, il est limite en burn-out, y compris physique. Hein.
Mais oui, et je sais par quoi il passe, et c'est pas des moments faciles parce qu'en fait on n'a pas la maîtrise de son propre corps.
Et là c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, on peut pas donner de conseils aussi. Quand on est champion olympique, qu'est-ce qu'on dit à Valentin Winato ? Accroche-toi garçon.
Non, moi ce que je lui dirais c'est qu'il faut se reposer parce que on a toujours peur de pas en faire assez. Nous on est éduqués pour en faire plus, pour tout le temps s'entraîner, tout le temps travailler, et moi ce que je pense c'est que je me suis toujours arrêté trop tard quand j'allais me blesser.
Alors Valentin, tu te reposes chez tes grands-parents et on se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode 26. Et nous, on y croit à la qualif de Valentin pour Paris 2024. Paris 2024 qu'on passera donc ensemble. Vous êtes le bienvenu tous les soirs pendant les Jeux Olympiques sur l'émission L'Esprit Sport de France Inter. Pendant cette quinzaine olympique, Denis, il y aura Claude évidemment.
Absolument.
Bah évidemment qu'on y sera. Merci d'être venu, Denis, et d'avoir fait un petit détour par Paris, vous qui repartez dans le sud chez vous. Merci à mon équipe du dimanche de la direction des sports, son capitaine Alexandre Gilardi avec Coy Nguyen à la réalisation, à la technique cette semaine, Ludovic Asselot, et à la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert.